J'en viens immédiatement à la présentation de notre conférencier ce soir. Il s'agit de Vincent Gouraud, qui est né en mars 1948, diplômé de l'École des mines de Paris et des universités de Paris 6, Paris 7 et Stanford. Il est professeur à l'université de Paris 7. Il est physicien à l'Institut de physique du globe de Paris. Il a été directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Et il est actuellement professeur de géophysique à l'université de Paris 7, Denis Diderot. Et en même temps, il est directeur de la recherche au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il est spécialiste des variations dans le temps du champ magnétique terrestre et de la tectonique des plaques. On nous demande souvent de mentionner les publications des auteurs. Et là, outre, bien sûr, toutes les publications savantes spécialisées, je mentionne tout particulièrement son livre « La vie en catastrophe » qui est paru chez Fayard en 1995, parce que pour le cas où vous voulez prolonger la conférence. Il va nous parler ce soir de la question suivante, « La dynamique du globe contrôle-t-elle l'évolution des espèces ?» Et je lui donne tout de suite la parole, 50 minutes d'exposé environ, et ensuite vos questions le plus largement possible. Merci.
Merci beaucoup. J'espère que le son fonctionne. Je vais essayer de bénéficier et d'utiliser au mieux la haute technologie tout en constatant qu'elle n'a pas encore libéré l'homme ni la femme. Je suis attaché et il y a un moment où je vais devoir faire 6 mètres avec un fil de 3 mètres. Vous n'êtes pas obligé de rire quand ça va se produire parce qu'il va sûrement se passer des choses assez étranges. Nous allons essentiellement nous baser dans cet exposé sur des diapositives. J'ai voulu des médias un peu différents, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Et on va donc commencer par les deux premières diapositives, si vous voulez bien, lesquelles vous montreront des petits animaux familiers. À gauche, c'est pas très grand, ben on va se débrouiller avec ça. À gauche, une scène imaginée par un artiste breton de la première moitié de ce siècle qui envisageait son paysage breton il y a quelques centaines de millions d'années, parcouru par ce qu'on appelait encore à l'époque des diplodocus. Et puis ces animaux, ces dinosaures que vous connaissez certainement tous les uns et les autres et probablement largement aussi bien que moi, est venu un moment, il y a 65 millions d'années, où tous, qui occupaient toutes les cases écologiques possibles et imaginables, il y avait des dinosaures dans l'air, dans les mers, sur les terres, il y en avait des petits, il y en avait des gros, il y avait des végétariens, il y avait des carnivores, bref, ils étaient merveilleusement adaptés à ce monde de l'ère secondaire. Et un beau jour, point d'interrogation, il y a 65 millions d'années, ils ont disparu. Les théories proposées par les chercheurs depuis une centaine d'années pour expliquer ces disparitions sont extrêmement nombreuses, et la plus populaire d'entre elles, l'une des plus récentes, est celle qui a fait Flores depuis 1980. C'est l'idée illustrée à droite par un artiste que, un beau jour, et là c'est sans point d'interrogation, donc instantanément à l'échelle des temps géologiques, un essaim de comètes ou une grosse météorite sont tombés sur la Terre et que cet impact, envoyant dans l'atmosphère des quantités extraordinaires de poussière et d'aérosol, ont modifié le climat. On pourra, si vous le souhaitez dans la discussion, voir un peu plus précisément ce qu'on imagine des modifications de ce climat, créant une longue nuit, un hiver planétaire, suivi ensuite d'une période d'effet de serre encore plus longue et donc un passage chaud-froid, ou plutôt froid-chaud, dont de nombreuses espèces ne se sont pas relevées, qui a coupé, interrompu les chaînes alimentaires et qui aurait fait disparaître de la surface de la Terre non seulement la totalité des dinosaures, et ça c'est bien connu de la plupart des gens, mais on le sait moins souvent, de très nombreuses autres espèces tout aussi importantes, de plus petite taille, et sur lesquelles on reviendra également éventuellement. Diapo suivante. À gauche, un dessin pour illustrer de façon humoristique l'arrivée de ces météorites sur la tête des pauvres dinosaures, et à droite, un magnifique fossile d'origine chinoise pour vous montrer l'information qui nous reste de ces dinosaures, tout ce qu'on va raconter, tout ce que les paléontologues, les spécialistes des sciences de la Terre reconstituent de la vie passée du globe, est basé sur l'analyse de ces fossiles, de ces restes qu'on retrouve dans les roches. Il faut que vous sachiez que pour une espèce donnée, rares sont les individus qui sont bien préservés. Et donc l'enregistrement que nous avons de la vie sur Terre à travers ces fossiles, pour passionnant qu'il soit, est tout à fait incomplet. Évidemment, tout ce qu'on va construire dessus est fonction du degré de complétude ou d'incomplétude de cet enregistrement. Mais la théorie de la météorite n'est pas la seule qui ait été proposée. Diapo suivante. J'étais pas dans l'ordre. C'était juste pour vous dire que le 19e siècle et le début du 20e siècle, ayant été dominés dans la pensée des évolutionnistes et dans la pensée des géologues par une idéologie qui est celle de l'uniformitarisme, idée très importante qui veut qu'au cours des temps géologiques, il ne se soit jamais passé beaucoup d'autre chose que ce qui se passe aujourd'hui, et que les transformations, les évolutions qu'on observe dans les roches soient simplement dues à l'extraordinaire longueur des temps géologiques, et donc un refus en général de tout deus ex machina, de toute catastrophe qui viendrait expliquer les observations des géologues, pour dire aux gens « la météorite, c'est pas si bête que ça », eh bien on leur signale que les cratères d'impact, ça existe sur la Terre. À droite, vous avez le météore cratère qui correspond à un petit objet d'une centaine de mètres de diamètre qui est tombé sur la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années en Arizona et qui a laissé, parce que l'impact est récent et parce que le climat est sec, une trace assez facilement identifiable, bien qu'au cours des 50 premières années de ce siècle, les géologues se soient battus entre ceux qui croyaient que c'était bien un impact de météorite et ceux qui pensaient que c'était autre chose. Maintenant, plus personne n'a de doute. Mais sur Terre, comme la Terre est une planète active, qu'on a de l'eau, de l'érosion, des climats, de la tectonique des plaques, la surface est sans cesse rajeunie et les impacts anciens ont très peu de chances d'être préservés. Ce qui fait qu'on ne voit pas beaucoup d'impacts et pas beaucoup de très grands impacts à la surface de la Terre. Mais nous avons une sœur, la Lune, qui a enregistré l'histoire du début du système solaire et qui, étant, elle, un astre inactif, a conservé figé l'état des lieux d'il y a 3 à 4 milliards d'années, et on y observe grand nombre de gigantesques cratères. Il n'y a aucune raison de penser qu'à cette époque, la Terre n'a pas subi des impacts de la même importance qui ont créé pendant un moment au moins un paysage aussi impressionnant. La question étant de savoir pendant combien de temps ces énormes impacts ont continué et de quand datent les derniers très grands impacts. C'est une des questions sur lesquelles on reviendra. Donc, depuis 1980, une théorie a dominé les 20 dernières années, c'est l'hypothèse de la disparition des dinosaures par cet impact de météorites. Les diapos suivantes. Alors, il y a eu de nombreuses autres hypothèses qui ont été formulées, et l'une d'entre elles, dont j'ai été, mais avec beaucoup d'autres collègues et avec plusieurs personnes de mon équipe, l'un des auteurs, a suggéré, et je vous montrerai dans un instant comment, qu'il y a une autre solution pour éteindre ces pauvres bêtes. C'est une catastrophe climatique, biologique, certes, mais non pas d'origine externe, mais d'origine interne, et qui trouverait sa source dans la Terre, à travers un volcanisme qui va nous falloir un petit peu préciser, un volcanisme, naturellement, qui devrait être beaucoup plus gros que tout ce qu'on a observé de mémoire humaine, même si vous voyez ici une éruption fissurale en Islande il y a une trentaine d'années, et que vous imaginiez qu'un très grand volcan, une très grande fissure, de très grandes fontaines de lave peuvent injecter dans l'atmosphère des poussières que vous voyez, des aérosols que vous ne voyez pas, des gaz chlorhydriques, carboniques, sulfureux, qui ont la possibilité de modifier durablement le climat. Nous savons depuis une quinzaine d'années environ, depuis l'éruption du volcan El Chichon et plus récemment du Pinatubo, que c'est en effet la quantité de soufre injectée par les volcans dans l'atmosphère qui est responsable de l'évolution d'une évolution climatique. La température moyenne de l'hémisphère nord a chuté de façon mesurable pendant quelques années à la suite de l'éruption du mont Pinatubo de quelques fractions de degrés Celsius, mais à l'échelle de la température moyenne de l'atmosphère d'un hémisphère, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Ce n'est pas pour autant que dans les 15 dernières années, les espèces se soient éteintes en masse. Donc si le volcanisme doit expliquer l'extinction des espèces, c'est à une autre échelle qu'il faut réussir à documenter et à démontrer. Diapo suivante. À côté de ces grandes familles d'hypothèses qu'on appelle des hypothèses catastrophistes, parce que qu'il s'agisse d'un impact de météorite qui dure une seconde, ou qu'il s'agisse d'une éruption volcanique qui s'étagerait, on le verra tout à l'heure, sur quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'années, on a là des événements qui, à l'échelle des temps géologiques, qui se chiffrent en millions, dizaines de millions, voire milliards d'années, l'âge de la Terre étant de 4 milliards et demi d'années, 4 550 millions, eh bien, ces événements sont des événements extrêmement brefs. Il existe toute une famille de scientifiques qui ont fait l'hypothèse que pas du tout, il ne s'était rien passé de brutal au moment de la disparition des dinosaures, que c'est simplement la mauvaise qualité de l'enregistrement de ces événements par les fossiles qui nous donnait cette impression de brutalité, mais qu'en fait les choses se sont passées de façon relativement calme et régulière sur des dizaines de millions d'années, voire plus longtemps. Et ils veulent pour preuve de cela le fait qu'en effet, on a enregistré il y a 65 millions d'années, étagé sur au moins une quinzaine ou une vingtaine de ces millions d'années, un vaste mouvement de régression puis de retour des mers qu'on peut assimiler à un changement de la géographie du monde. La carte que vous avez à gauche vous représente à peu près la position qu'avaient les continents il y a 65 millions d'années. Les parties qui sont submergées, qui étaient submergées à cette époque, sont en vert intermédiaire comme couleur. Vous voyez donc que la distribution des surfaces des terres émergées était très différente, que la répartition des plateaux continentaux également était très différente et que donc le climat et la place disponible pour les espèces ont pu changer avec une régularité beaucoup plus grande que ce qu'imaginent les spécialistes du volcan ou ceux de la météorite. Et puis pour faire justice à toutes les formes de théories, en particulier une qui me paraît très intéressante, il y a une théorie qui veut que les extinctions aient bien été rapides, mais qu'on ait besoin pour les expliquer d'aucune source, ni interne ni externe, pas d'astéroïdes, pas de volcans, mais que c'est la dynamique des espèces elles-mêmes qui sera sans doute ou a déjà été décrite par d'autres conférenciers dans ce cycle de conférences sur la vie, ça serait la dynamique des relations elles-mêmes entre les espèces qui ferait que de temps en temps, des phénomènes coopératifs conduisent soit à un développement extrêmement rapide, soit au contraire à une disparition de masse d'espèces. Ceci a été très bien modélisé, c'est une application à la biologie de ce que certains d'entre vous connaissent sans doute mieux sous le nom d'effet papillon en météorologie, le fait qu'on s'aperçoive de plus en plus que des relations non linéaires entre les paramètres d'un système dynamique peuvent, à l'intérieur de ce système, conduire à des évolutions extrêmement brutales. Et puis vous avez une version là, que j'ai mise à l'envers à droite, mais le dessin n'en est guère changé, pour vous illustrer que à côté des trois familles, quatre familles de théories que je viens de vous dire, il en existe plus de 90 autres. 100 théories de la disparition des dinosaures ont été proposées depuis un siècle, pratiquement une par an. La plupart d'entre elles publiées par des gens tout à fait sérieux, dans des journaux tout à fait sérieux, et qui n'ont eu qu'une vie plus ou moins grande. Celle qui est illustrée de façon humoristique par ce conférencier dinosaure qui dit à l'assistance « Mes amis, le futur apparaît assez sombre, les mammifères sont en train de nous prendre la place et nous avons un cerveau de la taille d'une noisette ». Et en fait, une représentation humoristique d'une théorie qui a été réellement proposée, d'une inadaptation intellectuelle des dinosaures, d'une lenteur de leur influx nerveux. On a également suggéré que leur régime alimentaire ayant changé, ils pondaient des œufs dont la coquille était fragile et qu'ils les écrasaient quand ils les couvaient. Enfin, on a proposé tout un tas de théories qui, d'ailleurs, il ne serait pas inintéressant de réfléchir et de regarder, puisqu'elles ont été proposées par des gens sérieux qui, au moment où ils les proposaient, avaient des arguments pour le faire. Mais enfin, aujourd'hui, on se contentera de regarder plus particulièrement les deux ou trois familles de théories que je viens de résumer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, tout ça, c'est des théories. Et les théories, c'est très joli, mais dans tous les domaines, à mon avis, mais en particulier dans le nôtre, dans le domaine des sciences de la Terre, dans le domaine des sciences de la vie, elles doivent s'appuyer sur des observations. C'est l'interprétation de ces observations et leur intégration dans un cadre théorique qui justifie la raison pour laquelle les contribuables que vous êtes donnent un salaire sympathique aux chercheurs que je suis et à mes collègues à la fin de chaque mois. Donc il faut qu'on justifie de cet effort de votre part. Et cette justification, je vous la donne par le biais des données qui ont été ramassées depuis 20 ans par les géologues, les géophysiciens, les géochimistes, des spécialistes de plus d'une vingtaine de spécialités et de sous-spécialités différentes et qui ont, il faut bien le dire, complètement renouvelé l'approche de ce problème. Si je vous avais fait cette conférence avant 1980, elle n'aurait rien eu à voir avec ce qui s'est passé depuis 20 ans. Il y a eu dans ce domaine une véritable petite révolution de la pensée et cette révolution de la pensée, elle est basée sur des observations nouvelles. Elle est basée en particulier sur l'observation de ces roches que vous voyez derrière moi à gauche, qui sont des calcaires que l'on trouve quand on se promène le long d'une petite route départementale au nord de la ville de Gubbio, en Ombrie, en Italie. L'échelle n'est pas très loin de l'échelle que vous observeriez dans la réalité sur le terrain. En bas à droite, vous voyez des bancs calcaires qui ont été déformés par la formation des Apennins, par la formation des montagnes, on pourra y revenir, par la collision entre l'Italie, l'Afrique et l'Eurasie. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est que les calcaires qui sont situés en bas à droite sont bleutés, gris-bleu, blanc-bleu pâle. Ils se sont déposés dans un milieu semi-tropical, à quelques centaines de mètres de fond, dans une mer assez chaude et assez sympathique. Et quand on en casse un petit morceau et qu'on le regarde au microscope, on ne trouve évidemment pas des dinosaures, on trouve des fossiles d'animaux extrêmement petits, extrêmement nombreux, ce qui fait qu'on a de grandes possibilités d'observation. Et ces animaux, connus et étudiés depuis assez longtemps, sont caractéristiques de l'âge des couches dans lesquelles ils sont renfermés. Ils sont caractéristiques du Crétacé, la dernière partie de l'ère secondaire. Donc on sait exactement où on est dans le temps. En bas à droite de la figure, on est quelque part vers 66 millions d'années. Et puis vous voyez que la figure est traversée par une petite couche de 2 ou 3 cm d'épaisseur marron foncé qui est faite d'argile sombre et qui sépare ces bancs calcaires clairs de bancs calcaires plus rosâtres. Manifestement, le contenu en oxyde de fer est différent, mais ce sont des calcaires qui témoignent à peu près du même milieu de dépôt. Cependant, quand on casse là encore un petit morceau, un petit échantillon et qu'on essaie de regarder à la loupe ou mieux au microscope sur une lame mince de roche, les fossiles qui sont contenus, eh bien, la première chose dont on s'aperçoit, c'est que dans les premiers centimètres, il n'y a pas grand monde. On a l'impression que le monde s'est vidé. Et puis quand on regarde en remontant de quelques centimètres vers le haut, on trouve des fossiles d'espèces qui sont franchement différentes des espèces qu'on trouvait en dessous. Elles sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup moins fines et beaucoup moins décorées. Ce ne sont plus les espèces de la même période, et ça fait longtemps, avant même de savoir quelle était la raison de ce changement, qu'on les a identifiées comme étant les premières espèces marines qui datent le début de l'ère tertiaire. On a passé cette fameuse limite entre ère secondaire et ère tertiaire, ou limite crétacé-tertiaire. On peut mettre le doigt dessus, et la question que se posent les chercheurs depuis une vingtaine d'années en particulier, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Combien y a-t-il de mémoire de la Terre enfermée dans ce centimètre et demi d'argile noirâtre ? Et l'idée géniale qu'ont eue un certain nombre de chercheurs américains et italiens, en particulier Walter Alvarez, ça a été de prélever des échantillons de ces argiles et puis des calcaires de part et d'autre, et puis d'essayer d'analyser leur composition chimique pour voir s'ils arrivaient à trouver quelque chose de bizarre. Et cette composition chimique, elle est représentée par la diapositive de droite, qui représente la concentration en un métal extrêmement rare dans la croûte terrestre, l'iridium. La courbe que vous voyez va de 50 cm en dessous à 50 cm en dessus, donc c'est pratiquement une diagonale à travers cette diapositive. Chaque point représente la mesure d'iridium. La concentration est indiquée à gauche, elle est extraordinairement faible. Et c'est là qu'on avait besoin de techniques d'analyse. Ça n'est que depuis la fin des années 70 qu'on dispose par activation neutronique de techniques qui permettent de mesurer des concentrations qui se chiffrent en milliardièmes ou même en fractions de milliardièmes. Mais même à cette résolution, on voit un pic de ce métal iridium qui correspond avec la partie centrale de la figure. L'argile que vous voyez là est enrichie dans ce métal très rare. Et comme on ne voit pas très bien comment le concentrer à partir d'une source terrestre, mais que l'iridium est relativement abondant, toutes choses égales par ailleurs, dans certains types de météorites, et bien voilà, l'hypothèse de la météorite est née. C'est l'impact d'une météorite qui s'est vaporisée et dont les produits se sont ensuite redéposés dans cet instant des roches qui a entraîné cette concentration d'iridium. C'est l'observation de l'iridium qui, en 1980, a déclenché l'hypothèse de la météorite. Diapo suivante. Dans les années qui ont suivi, les chercheurs se sont précipités sur toutes les coupes possibles et imaginables de la limite crétacé-tertiaire, là où elles affleuraient. Ils ont ramené des tas d'observations, je n'ai absolument pas le temps ici de les résumer toutes. J'en ai choisi une qui me paraît particulièrement importante et que vous voyez illustrée à gauche ici. Ce que vous voyez, cet objet coloré, c'est un tout petit grain de quartz. Il a en gros 1 mm de diamètre, il est évidemment très largement grossi, il est regardé à travers un microscope en lumière polarisée, analysée. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il est traversé de familles de petits traits noirs droits, parfaitement parallèles les uns aux autres, qui forment en gros deux familles à des angles très caractéristiques. Et les spécialistes du quartz, les cristallographes, sont capables, en orientant ce cristal, de vous dire exactement à quel plan cristallin correspondent ces défauts. Et on ne sait produire ça aujourd'hui qu'en faisant passer à travers un cristal de quartz une onde de choc phénoménale. Cette onde de choc désorganise le réseau cristallin et laisse derrière elle, comme fossile, ses plans particuliers, ses dislocations, ses limites entre des domaines cristallographiques différents. On ne connaît aucun autre moyen de faire ça que de faire exploser une bombe atomique ou arriver une météorite. Et quand on va en effet ramasser des morceaux de grès à côté de l'impact de la météorite d'Arizona ou qu'on va prélever des échantillons à côté des sites d'explosion atomiques du temps où on les faisait à la surface, eh bien on observe en effet ce genre de caractéristiques. Donc c'est un argument très fort en faveur de la météorite. Inutile de vous le dire, enfin je ne vous l'ai pas dit, mais utile de vous le dire et je l'ai oublié, ces grains-là se trouvent dans la couche d'argile où il y avait déjà l'iridium et ni au-dessus ni au-dessous, donc c'est quelque chose de rare dans l'enregistrement géologique et c'est à ce moment-là qu'on le trouve. Et puis bon, la chose la plus importante sans doute, c'est ce qu'on a découvert à partir de mesures tout à fait indirectes qui sont faites en trimballant à la surface du sol un appareil géophysique qu'on appelle un gravimètre et qui mesure la pesanteur, la façon dont la Terre vous attire plus ou moins en dessous d'elle et qui atteste de la densité des couches sous-jacentes. La figure à droite que vous voyez est une image artificielle créée par un ordinateur qui semble être un relief et qui représente en fait la distribution de ce champ de pesanteur sur toute une partie du Mexique. La taille de cette figure à droite est énorme puisqu'elle doit faire en gros 200 km de large sur 200 km ou 250 km de profondeur. C'est toute une partie de la péninsule du Yucatan qui a cette signature très particulière. Quand on se promène à la surface, on voit pratiquement rien, mais manifestement en dessous, il se passe quelque chose. Vous voyez cette espèce de série de cercles d'assiettes empilées qui correspondent en fait à un cratère dans le sous-sol à quelques kilomètres de profondeur. Ce cratère a pratiquement 150 km de diamètre. Il n'existe à la surface de la Terre exposée aujourd'hui aucun cratère de cette taille-là. Si c'est bien un cratère d'impact de météorite, c'est le plus grand cratère connu sur la Terre, mais si on le ramène à la taille de ce qu'on observe sur la Lune, il n'est pas si extraordinaire que ça. Et puis, bon, bah depuis... Alors, on l'a foré, on n'a pas encore fait tout le travail, les données sont incomplètes. Mais de ce qu'on sait des forages qui ont été faits par des explorations pétrolières, en particulier au début des années 70, on a ramené des échantillons de minéraux choqués, des roches fondues qui pourraient être des laves, mais qui pourraient aussi être la croûte fondue par la chaleur dégagée au moment de l'impact. Et quand on a daté ces roches, on a trouvé qu'elles avaient 65 millions d'années, c'est-à-dire l'âge de la limite Crétacé-Tertiaire. Donc l'iridium, les quartz choqués, la trace de l'impact au Mexique, un énorme impact qui a à peu près la bonne taille pour une météorite qui devait faire 10 km de diamètre à peu près, il semble vraiment que le scénario en faveur de l'impact d'astéroïdes, qui ne s'est pas développé aussi souplement que je suis en train de vous le dire, entre 80 et 90, qui a fait l'objet de controverses, se soit petit à petit affirmé et doivent aujourd'hui être acceptés. C'est d'ailleurs aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est en France, certainement encore aujourd'hui, l'une des hypothèses les plus communément admises. Si vous faites une interview dans la rue, je pense que vous aurez 70 ou 80% des gens qui vous diront « mais je sais bien ce qui s'est passé à la fin de l'ère secondaire, c'est une météorite ». Diapo suivante. Alors, pendant ce temps-là, et je n'ai pas le temps dans les 50 minutes que je risque d'ailleurs de dépasser, de rentrer dans tout le détail, je me trouvais avec mon équipe à me promener, à ramasser des cailloux quelque part entre le Tibet et l'Inde. Nous étions en train de mesurer la dérive des continents. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure sur un petit film, si on y arrive, cette dérive des continents. Et pour la mesurer et pour arriver à fabriquer de façon précise et quantitative le genre de reconstitution que je vous montrerai tout à l'heure, nous nous sommes au bout d'un moment trouvés en Inde, dont vous voyez la carte géologique à gauche. Et en Inde, eh bien, nous allions étudier une énorme formation volcanique dont vous voyez la photo à droite dans une partie qui n'est pas très loin de Bombay. On appelle cette formation géologique les trappes du Deccan. Ce sont 2000 mètres d'épaisseur de lave couvrant la grande zone verte qui fait à peu près la surface de la France. Donc imaginez 2 km de lave sur 500 000 km², c'est un objet d'un million de kilomètres cubes. 1 million de kilomètres cubes de lave empilés couche après couche. Certaines de ces couches font 100 mètres d'épaisseur. On n'a jamais vu se former sur Terre, de mémoire d'homme, des couches aussi vastes et aussi épaisses. Et le travail que nous avons mené a consisté à essayer de dater ces roches en utilisant diverses familles de techniques qui chacune pourrait faire l'objet, là encore je vous laisserai choisir ce que vous avez envie qu'on discute tout à l'heure, qui pourrait faire chacune l'objet d'une discussion plus détaillée que je n'ai le temps de le faire aujourd'hui. Alors quelques diapositives, les deux prochaines en particulier, pour vous montrer ces techniques. Non, d'abord le paysage, nous sommes donc allés nous rendre dans cette province du Deccan. La plupart du temps, les affleurements n'ont pas l'aspect magnifique des grandes coupes que vous avez vues dans la diapositive précédente. Il faut aller chercher les cailloux là où une rivière a dégagé le sol, là où l'altération tropicale de ce milieu indien n'est pas trop grave. C'est très difficile de trouver des cailloux frais dans ce pays. Et ces cailloux, avec les collègues que vous voyez ici, indiens et français, nous les avons échantillonnés, ramenés au laboratoire et nous en avons mesuré l'aimantation dans ce laboratoire. Diapo suivante. Vous voyez à gauche notre laboratoire dans les sous-sols de Jussieu avec un certain nombre d'instruments qui ont pour but de mesurer l'aimantation extrêmement faible des roches. La plupart des roches naturelles, quand elles se forment, renferment au moins un tout petit peu de minéraux magnétiques, en général de la magnétite ou de l'hématite, des oxydes de fer. Nous sommes capables de mesurer cette direction de l'aimantation et cette aimantation, elle s'est faite au moment où la roche s'est faite et elle nous donne une photo de la direction qu'avait le champ magnétique terrestre au moment de la formation. Ce sont donc en gros des boussoles, et des boussoles qui ont gardé la mémoire de la direction, à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical, du champ magnétique terrestre, parfois depuis des centaines de millions d'années. En utilisant ces techniques magnétiques, en utilisant les techniques de la géochronologie, c'est-à-dire la datation radioactive que chacun à peu près connaît quand il s'agit du carbone 14 qui sert à dater les objets archéologiques et dont il existe d'autres couples d'atomes, le potassium et l'argon, le rubidium et le strontium, l'uranium, le thorium et le plomb, nous avons des moyens en géochimie de dater beaucoup plus loin dans le passé, jusqu'à l'origine du système solaire, les roches, pour peu qu'elles aient une quantité suffisante de ces matériaux. Et en utilisant l'une de ces méthodes, la méthode des isotopes de l'argon, 39 et 40, nous et d'autres laboratoires avons montré que du bas au haut de la falaise des laves indiennes, qui est représentée sur la diapo de droite, colonne de gauche, où vous voyez les noms qu'ont donné les géologues indiens à toutes les formations de laves successives, eh bien vous avez sous forme de petits cercles avec une barre les estimations des âges de chacune de ces coulées. Ce dont vous vous apercevez, c'est que d'abord, c'est des sciences, c'est-à-dire que ce n'est pas des valeurs exactes, il y a une incertitude, et notre problème à chaque fois, c'est de discuter cette incertitude et de voir si elle autorise plusieurs interprétations. Mais ce que vous voyez en gros, c'est que les données qui sont tout en haut sont à peu près à l'aplomb de celles qui sont tout en bas, et si vous arrivez à lire la toute petite échelle qui est en bas, elles sont autour de 65-66 millions d'années. Conclusion, les roches du Décan se sont formées en très peu de temps, il y a 65-66 millions d'années, et on est capable de dire, grâce au magnétisme, que cette durée n'a sans doute pas excédé un demi-million d'années. Un demi-million d'années, pour nous, c'est rapide. Il faut que vous vous habituiez à ça. Diapo suivante. Force est de dire, et là encore, je pourrais raconter ça à ceux que ça intéresserait éventuellement, qu'aucune des techniques que je viens de vous décrire toute seule ne permet d'apporter la réponse au problème. C'est bien d'avoir le magnétisme, il nous dit très court. C'est bien d'avoir la méthode argon-argon, elle nous dit vers 65 millions d'années. Mais même avec ces deux choses-là ensemble, il nous reste plusieurs possibilités. Et c'est en fait parce que nous avons retrouvé des bons vieux petits fossiles. Ici à gauche, la dent d'une raie qui vivait pendant la toute dernière période de l'ère secondaire et qui est sandwichée dans des sédiments qui se sont déposés dans un lac alors que les premières éruptions avaient commencé à se mettre en place, que nous pouvons complètement cerner le problème et proposer l'interprétation qui est représentée dans la diapositive de droite, qui est une diapositive un peu technique, difficile à lire, je n'en avais pas d'autre, où est représentée à droite en blanc la série des couches volcaniques, en bleuté les sédiments qui sont en dessous, au milieu et au-dessus de cette couche volcanique. Ça représente donc 3 km d'épaisseur, hein, cette coupe. Et à gauche, la colonne du milieu en noir et blanc vous donne la direction magnétique qui change deux fois à l'intérieur de cette coulée. Et c'est ça qui nous prouve que c'est extraordinairement rapide. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer un peu plus tard pourquoi. Et à gauche, la petite courbe avec des pics plus ou moins grands, c'est notre idée de l'intensité du volcanisme, le temps s'écoule du bas vers le haut, un premier petit coup de volcanisme, un deuxième, puis une phase assez violente, puis encore quelques autres phases. C'est notre suggestion d'une séquence d'étapes que nous ne sommes pas encore capables de chiffrer très précisément, de l'arrivée de ce volcanisme gigantesque par à-coups successifs à la surface du globe en Inde, il y a 65 millions d'années. Diapo suivante. La raison pour laquelle j'insiste sur cet aspect successif, c'est que les paléontologues, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, nous apprennent entre autres que quand ils regardent partout dans le monde ces coupes de la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, et qu'ils regardent les petites bestioles et qu'ils les regardent disparaître, eh bien, ils n'observent pas ce que vous voyez en haut à gauche. Chacun des petits traits verticaux représente dans une couche géologique du bas plus vieux vers le haut plus jeune la présence d'une espèce. Donc un petit trait, ça veut dire l'espèce est là, il y a des fossiles, il n'y a plus de fossiles. Il y en a une autre, une autre, une autre, une autre. Vous voyez en haut à gauche une dizaine d'espèces qui s'arrêtent d'un coup à un niveau donné, puis quelques-unes qui survivent, et puis la vie qui redémarre. C'est ça qu'on devrait attendre si la catastrophe avait été brutale, unique et instantanée. Or, on observe à droite, voilà une coupe type avec des données réelles de chaque barre de couleur, c'est une espèce de microfossile particulière. On s'aperçoit qu'il y a plutôt une série de niveaux successifs. Le niveau d'iridium qui marque la météorite est marqué par la ligne de points noirs. Donc, vous voyez même en plus, et on pourrait aussi discuter de cela, que dans cette coupe particulière du Texas, il n'y a même pas d'extinction particulière juste au moment de l'iridium. Mais il y a peut-être des problèmes d'enregistrement. En tout cas, on a l'impression que c'est plutôt un système en marche d'escalier. Ce système en marche d'escalier est représenté par le modèle du milieu, et il colle assez bien avec l'idée que vous avez eu une série de sorties volcaniques assez brutales qui chacune a donné un coup plus ou moins grand, mais qui fait que cette extinction s'est produite sur une certaine durée en phases successives. Diapo suivante. Alors, nous avons passé pas mal de temps sur la dernière et célèbre grande extinction qui, il y a 65 millions d'années, marque la limite entre ère secondaire ou mésozoïque et ère tertiaire ou cénozoïque. Vous avez à gauche, pas très facile à lire, une courbe plus générale. On m'avait dit que je pourrais avoir un pointeur. Jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin, mais là, ça m'arrangerait. Est-ce que ça existe? Est-ce que je trouble quelqu'un? Pas grand monde. Bon, on va voir. Ça va, j'ai un pointeur. Vous voyez ici en rouge une courbe qui vous montre au cours du temps, mais attention, l'échelle a complètement changé. En bas, nous sommes il y a 600 millions d'années, 10 fois plus vieux que la fin des dinosaures. Vous avez tout simplement sur cet axe horizontal la diversité, le nombre d'espèces marines qu'on a repérées dans les fossiles, dans les roches que les paléontologues ont retrouvées. Vous voyez que le nombre des espèces, la diversité du témoignage de la vie sur Terre a énormément augmenté, c'est le début de l'ère primaire ou paléozoïque. Avec quelques accidents, c'est fixé à une valeur relativement régulière pendant quelques centaines de millions d'années. Et puis qu'il y a 250 millions d'années, il s'est passé quelque chose de terrible, une énorme extinction en masse d'espèces. La vie a repris, elle est retombée, elle a repris. Et là, je ne peux pas monter assez haut, mais la dernière limite entre le blanc et le rose que vous voyez, c'est la fameuse limite Crétacé-Tertiaire. Vous voyez que cet événement assez violent, il est marqué, mais il n'est pas si impressionnant que ça sur cette courbe. Il y en a 4 ou 5 autres, et en particulier, il y en a un qui est manifestement beaucoup plus grand que les autres, il y a 250 millions d'années. La courbe de droite représente à peu près la même chose. Histoire de vous tromper un peu, au lieu que le temps parte du bas vers le haut, il va de la gauche vers la droite. Au lieu que ça soit 600 millions d'années, il n'y en a plus que 250. Donc vous ne voyez ici que la totalité de l'ère secondaire et de l'ère tertiaire. Et la courbe en haut, ça n'est pas le nombre d'espèces, mais c'est le taux de disparition d'espèces. Donc quand il y a un pic, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'extinctions. Vous voyez que la courbe est assez hachée, que certains des pics sont peut-être à la limite d'être interprétables, parce qu'il n'y a pas de barre d'erreur, mais il devrait y avoir des barres d'erreur sur chacun de ces points. Vous voyez ressortir assez clairement la limite Crétacé-Tertiaire sous forme de ce pic qui est assez important. Vous voyez qu'il y a un pic encore plus important à la limite entre le Trias et le Jurassique, mais surtout, il y a un pic colossal, il y a 250 millions d'années, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Alors qu'il y a 65 millions d'années, ce sont probablement 2/3 des espèces, ce qui est déjà pas mal, de toutes les espèces vivantes sur le globe qui ont été rayées de la surface. Il y a 250 millions d'années, c'est probablement 90% de toutes les espèces. Et vous vous imaginez que quand il y a une pareille catastrophe, non seulement il y a des espèces qui disparaissent entièrement, c'est-à-dire que tous les individus de toutes ces espèces meurent, mais les espèces dont les individus survivent et auxquelles la vie actuelle sur la Terre vaut d'exister encore, elles doivent en prendre plein la figure. Et on peut imaginer qu'un nombre important d'individus des espèces qui survivent vont quand même mourir dans ces accidents biologiques et climatiques. On pense en fait qu'à la limite d'il y a 250 millions d'années, 99% au moins de tous les individus de toutes les espèces qui vivaient sur Terre ont disparu. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est à peine imaginable en termes de disparition de biomasse et en termes de catastrophes planétaires. La question qu'on peut se poser, c'est tout ce que vous venez de me raconter sur la dernière catastrophe d'il y a 65 millions d'années, est-ce que vous retrouvez les mêmes scénarios pour les autres, et en particulier pour la grande d'il y a 250 millions d'années? Est-ce que vous retrouvez des traces d'impact d'astéroïdes? Est-ce que vous retrouvez des volcans? Est-ce que vous retrouvez des grandes régressions marines? Est-ce que vous ne trouvez rien et qu'alors je dois essayer d'invoquer, par exemple, une source interne à la dynamique des espèces, comme je le disais tout à l'heure? Diapo suivante. Alors, là aussi, je suis obligé, par le choix que j'ai dû faire pour ce soir, d'aller vite dans quelque chose qui nous a pris 15 ans. Une fois que nous avons eu fait ce travail sur l'Inde, à travers le monde entier, plusieurs dizaines d'équipes se sont attaquées non seulement à regarder plus en détail la période de la disparition des dinosaures, mais aussi toutes ces autres extinctions que je vous ai montrées. Et en même temps, les géophysiciens se sont intéressés à regarder si sur la Terre, il y avait d'autres endroits que l'Inde où on observait ces épanchements volcaniques extraordinaires. La réponse à la deuxième question sur la diapo de gauche, c'est oui. Il y a une dizaine de grands pavés volcaniques qui font au moins 1 million de kilomètres cubes et qui sont répartis à divers endroits que vous voyez ici de la surface de la Terre. Sur chacun d'entre eux, on est parti faire le genre d'analyse qu'on avait fait en Inde et le résultat est brutalement et de façon pas très facile à lire, résumé sur la figure de droite. On a sur l'axe horizontal en millions d'années, et là vous avez le vieux qui est à droite, moins 300 millions, et aujourd'hui qui est à gauche, vous avez l'âge qu'on a obtenu pour chacune de ces formations volcaniques. Par exemple, pour les trappes du Deccan, on a trouvé 65 millions d'années, c'est le point qui est ici. Et sur l'autre axe, vous avez l'âge de toutes ces extinctions, de tous ces pics que vous avez vus dans la diapo de droite qui était juste avant celle-ci. Et par exemple, la limite Crétacé-Tertiaire, à 65 millions d'années, elle est là. Donc ce point-là vous dit, les laves du Deccan sont exactement à la période de l'extinction Crétacé-Tertiaire. Eh bien, vous avez ensuite tous les points qui correspondent à toutes les taches noires que vous voyez sur la photo de gauche. Et si les âges sont coïncidents, ça devrait se trouver exactement sur la ligne diagonale qui est indiquée par un petit trait noir. 80% des points que vous voyez là, à la précision de nos mesures, coïncident. Et donc, la quasi-totalité de ces formations volcaniques se trouve coïncider exactement avec la quasi-totalité des grandes extinctions, même s'il y a quelques problèmes qu'on pourrait discuter ensemble. Et en particulier, la grande catastrophe d'il y a 250 millions d'années, la fin du Permien, correspond exactement à, il y a donc 250 millions d'années, l'énorme formation volcanique qui est située en Sibérie, qu'on appelle les trappes de Sibérie et qui est bien connue des géologues, mais aussi des miniers et des économistes, parce qu'on y trouve des affleurements et des mines de métaux et des richesses minérales particulièrement bien développées, qui sont d'ailleurs liées à l'activité du volcanisme qui a créé, il y a 250 millions d'années, ces trappes de Sibérie. La diapo suivante. Alors, je voulais vous montrer un certain nombre de choses. La question que je vous posais et que je me posais dans le titre de cette conférence, c'était l'influence de la dynamique interne de la Terre sur l'évolution des espèces. J'ai surtout parlé d'espèces, j'ai surtout parlé de l'expression du volcanisme à la surface. Le travail du géologue, du géophysicien, c'est d'essayer d'aller regarder comment se sont produits ces énormes objets volcaniques que sont la dizaine de grandes trappes que vous avez vues en noir sur la figure de gauche précédente, d'aller non seulement les dater, comme on l'a fait, mais d'aller regarder ce qui en est la cause, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la Terre, sous la croûte, dans le manteau terrestre, qui a conduit à de pareils événements. Et est-ce que la croûte a été affectée d'une autre façon que simplement la présence de ce volcanisme et l'extinction des espèces par ces énormes objets dont nous n'avons aucun équivalent récent? La dernière fois qu'il s'est produit quelque chose d'aussi monstrueux à la surface de la Terre, c'était il y a 30 millions d'années, c'est pas vieux pour nous, mais ça fait quand même un petit moment. Et quel est le volcanisme correspondant? Eh bien, c'est tout simplement le haut plateau éthiopien. Vous voyez ça très bien sur une figure qui vous montre tout simplement la carte des altitudes sur une partie de l'Afrique du Nord-Est et l'Arabie. En rouge, c'est les hauteurs les plus grandes. En vert, ce sont les altitudes plus basses. Et puis dans les bleus foncés, ce sont les altitudes négatives en dessous du niveau des mers. Vous voyez très bien cet énorme plateau volcanique sur lequel est construit ici Addis Abeba, qui fait en moyenne 2000 mètres d'altitude, dont on retrouve d'ailleurs un bout au sud de l'Arabie, dans la province, enfin dans l'état du Yémen. Et cet objet-là, eh bien, c'est un énorme volcan qui s'est formé il y a 30 millions d'années, assez précisément, non pas au moment d'une grande disparition d'espèces, mais au moment d'une des principales crises climatiques qui se soit produite au cours de l'ère tertiaire. Ça correspond en particulier à la véritable apparition des glaciations dans l'Antarctique. Et il semble qu'il y ait une relation climatique entre le volcanisme des trappes d'Éthiopie et l'établissement de ce régime particulier dans lequel nous sommes encore, puisque nous sommes encore dans des phases glaciaires, même si ce moment de notre histoire est plutôt une phase interglaciaire confortable qu'une phase glaciaire à proprement parler. Vous avez une photographie prise depuis la navette spatiale, c'était pris, c'est une assez ancienne photo du golfe d'Aden que vous reconnaissez ici et de la mer Rouge. Vous retrouvez les mêmes zones vues sous un angle un peu différent. Vous savez que cet endroit est un des premiers endroits où on a eu l'idée d'aller vérifier la réalité de la dérive des continents de Wegener. On s'aperçoit que vous regardiez la photo de gauche ou la photo de droite, qu'on arrive très bien en refermant la mer Rouge et en refermant le golfe d'Aden à ajuster les morceaux du puzzle. Et Teilhard de Chardin avait d'ailleurs dit dans les années 30 que s'il y avait bien un endroit du monde où on devrait pouvoir aller tester la théorie de M. Wegener, c'était dans cet endroit-là. On l'a depuis testé, on l'a testé fort bien. Et ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est qu'il y a coïncidence entre un endroit où s'est produit une énorme éruption volcanique, un gros pâté qui forme les trappes d'Éthiopie, et puis une déchirure continentale qui est venue traverser ces trappes, qui est venue après, car cet océan n'est né que dans les millions d'années qui ont suivi l'arrivée à la surface du volcanisme. Donc c'est ça, et je vous le dis, c'est ça qui m'intéresse en ce moment dans ma recherche, il y a manifestement une relation entre l'arrivée de ces bulles magmatiques à la surface et les grands moments où se réorganise la danse des continents à la surface du globe, les grands moments où se déchirent les bassins océaniques. La diapo suivante vous montre le cas, les diapos suivantes vous montrent le cas de deux autres trappes. À gauche, vous avez les trappes du Groenland. En bas de la figure de gauche, c'est la position aujourd'hui, et en noir, c'est les traces de lave à cet endroit-là. Elles sont surtout sous-marines, qui correspondent un peu aux trappes du Deccan et qu'on a retrouvées au Groenland. C'est 1500 mètres de façade de lave qu'on a daté assez précisément. Et quand on regarde ce qui se passait au moment où cette lave s'est mise en place, eh bien, l'océan Atlantique Nord ne s'était pas encore ouvert. Et c'est tout simplement la naissance du point chaud qui est aujourd'hui en Islande, mais qui n'est qu'un pâle souvenir de ce qui a dû se passer à l'époque, qui s'est produit. C'est donc les trappes du Groenland qui déclenchent l'ouverture de l'Atlantique Nord. On recule encore dans le passé, 130 millions d'années, la limite entre le Trias et le Jurassique, un énorme volcan arrive à la surface et forme les trappes du Parana, dont on retrouve un petit morceau en Namibie, en Afrique, qu'on appelle les trappes d'Etendeka. Vous avez la position actuelle en bas. Ce qui a brûlé la surface n'est plus aujourd'hui qu'un petit volcan situé au milieu de l'océan Atlantique Sud, c'est l'îlot de Tristan d'Acunha. C'est exactement l'âge, 130 millions d'années, de la limite Trias-Jurassique. C'est cela qui, manifestement, favorise, comme une déchirure qui se propage du sud vers le nord, l'ouverture de l'océan Atlantique Nord. On va passer, je pense que les deux diapos suivantes sont vides, et donc on reste noir, c'est parfait. On passe sur le transparent. Et je voudrais vous montrer, parce que je n'avais pas de diapo pour cela, ce qui s'est passé encore plus avant que les 130 millions d'années où je vous ai laissé avec l'Atlantique Sud, il y a 200 millions d'années. Donc voilà l'allure du monde il y a 200 millions d'années. Ceux d'entre vous qui avaient regardé un peu les histoires de Wegener retrouvent à peu près reconstruit le grand continent de la Pangée. Eh bien, il y a 200 millions d'années, il se forme une roche volcanique importante dont on retrouve des traces au Maroc d'un côté et en Amérique du Nord de l'autre. Ceux d'entre vous qui avaient franchi le pont George Washington en quittant le nord de l'île de Manhattan à New York et qui est entré au New Jersey, est entré dans une ville qui s'appelle Palisades, avait traversé l'Hudson dont vous avez vu la falaise et vous avez vu qu'il y avait en effet le long de cette falaise une palissade noire. Ce sont des roches volcaniques qui se sont formées exactement il y a 200 millions d'années au moment où se formait cette bulle énorme. Très rapidement, tout l'océan Atlantique central allait craquer, là encore, arrivé d'une bulle colossale qui correspond avec l'extinction, j'ai dit Trias-Jurassique tout à l'heure, c'était Jurassique-Crétacé. Et voilà l'extinction Trias-Jurassique peut-être, soyons prudents, mais vous avez surtout cette association avec une ouverture océanique. Quand j'ai publié ce travail, ces roches étaient au Maroc et en Amérique du Nord étaient à peine reconnues, leur extension spatiale était très faible et j'avais été très timide quand j'avais préparé ce dessin pour une conférence précédente il y a quelques années. Nos collègues américains se sont intéressés à retrouver les traces de cet événement volcanique. Il se trouve qu'ils sont en partie sous l'eau, en partie sous les sédiments, parce que c'est vieux, de la bordure de l'Amérique du Nord. Et voilà, à la dernière conférence de l'Union géophysique américaine, en rouge, la surface sur laquelle ont été retrouvées des traces de cet événement volcanique. C'est peut-être l'un des plus énormes qui se soit produit. On en retrouve les traces aujourd'hui en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et largement à l'intérieur de l'Afrique, moins épais que les trappes du Deccan, mais répartis sur une zone beaucoup plus vaste. Vous imaginez combien cet événement magmatique a pu perturber la croûte terrestre, et c'est probablement ça qui a conduit à la déchirure océanique. Sur la diapo que je vous montre ici en résumé, où j'ai dessiné de façon extrêmement simplifiée la Pangée, les continents, il y a 250 millions d'années, vous reconnaissez en haut à gauche l'Amérique du Nord, Nam, en bas à gauche l'Amérique du Sud, Sam, à droite l'Afrique et en haut l'Europe. Vous voyez les trois bassins océaniques qui vont s'ouvrir, Atlantique Nord, Atlantique Central, Atlantique Sud. Chacun correspond à une éruption volcanique géante, chacun correspond à une extinction d'espèces. Il semble bien que quand nous regardons l'océan Atlantique, la carte géographique de cet océan, ça soit tout simplement la superposition de trois bassins qui chacun se sont ouverts et témoignent d'un des grands événements de l'histoire de la Terre. Vous voyez donc coupler cette dynamique des accidents de l'intérieur du manteau avec l'évolution plus majestueuse de la dérive des continents. Alors, vu l'heure, je vais sécher, et vu l'expérience que j'ai à faire, qui est de faire le tour de la table dont je ne me relèverai pas vivant, je verrai en fonction de la discussion si je vous montre tout à l'heure un dessin animé qu'un de mes collègues, Jean Besse, a préparé, qui vous montre d'où sont extraites les figures que vous venez de voir, et vous verrez, ou vous verriez, se dérouler sur 260 millions d'années le balai des continents, exploser comme une tache rouge chaque éruption volcanique et se déchirer ensuite chaque bassin océanique. Bon, je pense que c'est la meilleure façon de se mettre en tête l'échelle de temps et de mouvement, mais je pense que le mieux, c'est de remettre ça en annexe de ma conférence et de poursuivre sur les diapositives de façon à ne pas tenter le diable. Donc, tous ceux qui s'étaient préparés peuvent relaxer. Et je vais continuer sur les diapositives. Alors, je suis géophysicien. Une des choses qui m'intéresse, c'est d'appliquer les méthodes de la physique à l'étude de la Terre, et comme l'indique le titre de la conférence, de comprendre sa dynamique interne. Et maintenant, je vais vous entraîner dans un voyage un peu plus difficile à imaginer, parce que faire des images de l'intérieur de la Terre, où règnent des températures, des densités, une obscurité farouche, c'est pas facile. C'est plus facile de faire Jurassic Park que de vous faire le voyage à l'intérieur de la Terre. D'ailleurs, les voyages de l'intérieur de la Terre qui ont été tentés en film sont la plupart du temps assez décevants, parce que c'est très difficile. Donc, avec quelques dessins, je vais vous demander d'entreprendre un voyage à l'intérieur de la Terre et nous allons descendre jusqu'à son noyau à 6400 km sous cette salle. En démarrant avec mon outil et mon outil de travail, mon gagne-pain, c'est le champ magnétique terrestre. Je vous en ai déjà parlé, mais très vite, pour vous dire que je m'en étais servi pour montrer que les laves du Deccan s'étaient fabriquées très vite. Quelques diapositives un peu plus calmes pour vous montrer d'abord l'allure, si je coupe la Terre, des lignes de force du champ magnétique terrestre, c'est ça qui oriente vos boussoles à la surface de la Terre. Et ça, c'est destiné à vous montrer que, pour ceux d'entre vous qui n'y avaient pas fait attention, votre boussole a d'un côté normalement une petite masselotte qui l'empêche de piquer du nez. Parce que le champ magnétique terrestre, non seulement il tend à l'orienter vers le nord, et c'est de ça que vous vous servez quand vous vous servez de la boussole, mais il tend aussi à la faire plonger du nez. Et dans cette pièce où je suis complètement désorienté, imaginons que le nord est par là, le champ magnétique non seulement pointe vers le nord, mais plonge de 64 degrés en dessous de l'horizontale. Et il y a une relation mathématique très simple, dérivée de cette figure, qui me dit, si vous êtes à un endroit où ça plonge de 64 degrés, c'est que vous êtes à 48 degrés de latitude nord. En gros, le plongement du champ magnétique me redonne la latitude, et vous avez compris la clé, c'est comme ça que je mesure la dérive des continents. Quand je vais ramasser un caillou en Inde et que je m'aperçois que le champ magnétique est typique de ce qui se passe à 30 degrés de latitude sud, alors qu'aujourd'hui c'est à 30 degrés de latitude nord, je sais qu'il a fait 60 degrés de latitude, c'est-à-dire presque 7000 km de dérive du sud au nord. Donc voilà comment on utilise l'aimantation fossilisée dans les roches. Un autre truc formidable, c'est qu'au milieu des océans, arrive en permanence par les déchirures qu'on appelle les dorsales de la lave, qui se refroidit et qui elle aussi fige la direction du champ magnétique terrestre. Et si on trimballe, les dessins de droite vous représentent le tapis roulant de la dérive des continents sous 2000 mètres d'eau qu'on a pudiquement retiré, eh bien, si vous trimballez un appareil magnétique, un magnétomètre, vous allez pouvoir lire, peinte à la surface de la croûte sous 2000 mètres d'eau, les alternances magnétiques dans un sens et dans l'autre qui témoignent que le champ magnétique de la Terre n'a pas toujours pointé vers le nord, comme on dit, c'est-à-dire que l'aimant n'a pas toujours eu son pôle nord vers le pôle sud, puisque ce sont les pôles de signes contraires qui s'attirent géographiques, mais il a parfois eu la direction inverse, et donc le champ magnétique de la Terre s'est inversé un grand nombre de fois, des centaines de fois, au cours de l'histoire de la Terre. La dernière fois, c'était hier, il y a 780 000 ans. Le champ magnétique depuis les Romains s'est écrasé en Europe d'un facteur 2. Si je poursuis ça, ça veut dire dans 2000 ans, je m'inverse. Et il y a des gens qui se demandent si le champ magnétique de la Terre va s'inverser dans 2000 ans. Or, c'est lui qui nous protège des rayons cosmiques. Donc, je vous laisse me formuler tout un tas de questions sur aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que c'est quand le champ s'inverse que les espèces s'éteignent? Et est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, on verra, je laisse un peu ça en l'air. Toujours est-il que ces inversions successives, elles sont peintes sur le plancher océanique. Je peux les dater toujours avec mes techniques géochimiques. Et diapo suivante, ça me permet de fabriquer une échelle des inversions magnétiques dans le temps passé. Nous sommes aujourd'hui à 0 million d'années à droite et nous avons pu reconstituer ça sur 170 millions d'années, Jurassique, Crétacé, ère tertiaire. Chaque petite bande noire, c'est une période de temps où le champ était comme aujourd'hui. Chaque petite bande blanche, c'est une période où le champ était à l'envers, c'est-à-dire que votre boussole aurait indiqué le sud au lieu d'indiquer le nord à cette époque. Et vous voyez que ça ressemble un peu à un code-barre de magasin, de prise unique, dans lequel vous allez faire identifier vos achats. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout régulier. C'est très irrégulier et nous savons reconnaître la forme de ces anomalies. Donc, si tout ceci est peint dans les roches ou sur le fond de l'océan, eh bien, on saura dire à quel moment ça correspond et on saura les dater. Mais l'autre chose qui est plus intéressante, c'est que vous voyez que la vitesse à laquelle ça s'inverse n'est pas du tout régulière. Aujourd'hui, ça s'inverse vite, il y a plein de petits traits. Vite, ça veut dire quelques inversions par million d'années. Mais il y a une grande période là où le champ ne s'est pas inversé pendant le Crétacé, pendant près de 30 millions d'années. Puis ça allait plus vite avant, puis ça allait plus lentement, il y a 270 à 300 millions d'années. C'est représenté par le graphe de droite, qui est la vitesse de ces inversions sur la même échelle. Vous avez le présent 0 à droite, le nombre d'inversions par million d'années aujourd'hui de l'ordre de 4, et vous voyez que ça a augmenté. Vous avez cette longue période où il ne se passe rien. Avant, la figure de gauche s'arrête là, mais nous avons maintenant des données un petit peu moins bonnes qui nous permettent de doubler la distance et de retrouver un deuxième cycle, une deuxième période calme et puis une autre période où le champ s'inversait. Il semble que cette trace de la dynamique de l'intérieur du noyau de la Terre, ça soit modulé sur de très très grandes périodes de temps. Et vous constaterez que la fin de la première période, c'est 250 millions d'années, paf, c'est la fin de l'ère primaire, et la fin de la seconde, c'est pas très loin de la fin de l'ère secondaire. Est-ce que le noyau de la Terre ne témoigne pas de grands phénomènes à grande distance qui, d'une façon ou d'une autre, participent à nous déclencher, au bout d'un certain temps, ces gigantesques catastrophes qui conduisent aux extinctions en masse. Nous sommes donc descendus dans le noyau de fer liquide de la Terre. C'est lui qui fabrique le champ magnétique, il a sa dynamique propre, et peut-être il est couplé d'une certaine façon à travers le manteau jusqu'à la surface de la Terre. La diapo suivante, à droite, vous montre un petit bouquin que je vous suggère, si vous le trouvez dans un kiosque, de l'acheter, qui est un essai le plus récent de faire un voyage au centre de la Terre et de faire par la pensée tout ce que chacun d'entre nous, géophysiciens, rêve de pouvoir faire, de descendre dans une petite capsule pour observer les minéraux, la température, les phases. C'est très bien fait, c'est fait par quelqu'un qui vous raconte les choses à peu près comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire qui a été passé un certain nombre de mois dans des labos et qui ne dit pratiquement que des choses exactes, sauf au moment où il a besoin que ça ne le soit pas pour qu'on puisse faire des choses qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Et puis à gauche, je vous ai représenté autrement cette fameuse courbe de l'évolution de la diversité sur Terre. Et là, j'ai redessiné en dessous l'évolution du champ magnétique terrestre pour vous remontrer que les deux grandes périodes bizarres du noyau coïncident assez bien avec les deux principales périodes de magmatisme et d'extinction. Alors, comment est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il y ait un couplage entre la surface de la Terre et son noyau ? On va passer sur le transparent. Je pense que les deux diapos suivantes devaient être vides. Et vous voyez ici, je vois que le temps ne me laisse pas beaucoup la possibilité d'insister, les sismologues, une autre espèce ou une autre sous-espèce de géophysiciens qui enregistrent en permanence les tremblements de terre à la surface de la Terre et qui utilisent les ondes de ces tremblements de terre pour regarder comme des rayons X à l'intérieur, font de tels progrès qu'aujourd'hui, avec toutes les stations qu'ils ont et tous les tremblements de terre qui se produisent à la surface de la Terre, ils sont capables d'éclairer l'intérieur et de le reconstituer par une tomographie qui est exactement l'équivalent de la tomographie que vous connaissez sans doute mieux et qu'on fait avec d'autres types d'ondes pour observer le cerveau ou l'intérieur du corps humain. Et ce que je vous montre sur cette figure, ce sont deux tranches de terre qui ont été faites quelque part à travers l'Amérique du Nord, peu importe, qui vont jusqu'au noyau de la Terre, c'est-à-dire à 2800 km de profondeur. La surface, ça, c'est pas très étonnant. Vous voyez en bleu, en gros, ce que les sismologues nous disent être des choses froides et denses, et en rouge, des choses chaudes et légères. Ici, c'est l'océan Pacifique, chaud, jeune et léger. Ici, c'est l'océan Atlantique, également chaud, un peu moins. Là, c'est le continent nord-américain, grosse croûte, solide, épaisse, froide depuis longtemps. Ce qui est plus intéressant, et ça, c'est tout nouveau, ça fait quelques années seulement qu'on commence à le voir sur ces deux figures, c'est qu'on arrive à voir que le manteau n'est pas du tout homogène comme on le croyait, mais qu'on y voit d'énormes masses un peu informes et froides qui sont sans doute des morceaux de croûte qui sont redescendus à l'intérieur de la Terre, et on savait depuis longtemps qu'ils pouvaient aller jusqu'à 700 km de profondeur. On s'aperçoit qu'apparemment, ils peuvent descendre jusqu'au fond, s'empiler sous forme de véritables cimetières. On appelle ça des cimetières de plaques océaniques. Et qu'est-ce que ça a ça comme résultat ? Eh bien, ça fait que ça fait une énorme masse froide et lourde qui vient s'installer sur le noyau, ce noyau dans lequel est en train de se fabriquer le champ magnétique à toute vitesse, ça convecte follement. Il essaie de se débarrasser de sa chaleur et on lui colle un isolant. Alors, ça développe des hétérogénéités et de temps en temps, ce matériau-là, il se réchauffe, il s'allège et on peut imaginer qu'il devient instable et qu'il va essayer de monter vers le haut. Alors, ces instabilités, malheureusement, la sismologie ne nous permet pas encore, transparent s'il vous plaît, de les voir. Vous voyez ici un schéma que j'ai fait un petit peu rapidement d'une coupe de l'intérieur de la Terre. Vous retrouvez les plaques à la surface et vous retrouvez cette espèce de dégueulis, si vous excusez le terme, de vieilles plaques froides qui sont descendues se mettre au fond. Et puis à un endroit, la chaleur s'accumulant, le noyau convectant, paf, vous allez fabriquer une instabilité comme un champignon de matériaux légers qui peut-être va arriver jusqu'à la surface et donner nos fameux trappes, nos fameuses éruptions et nos fameuses extinctions. On voit donc que peut-être tout le système intérieur, manteau, descente de froid, remontée de chaud et l'évolution des espèces biologiques serait éventuellement un grand système couplé. On revient aux dernières diapositives. Alors, à gauche, un schéma un petit peu plus artistique pour vous représenter un peu l'idée qu'on se fait de la dynamique de l'intérieur du noyau de fer liquide qui convecte à toute vitesse. Quand je dis toute vitesse, 1 km par an à 10 km par an, et du manteau qui convecte plus lentement, 1 cm par an dans la partie basse, 10 000 fois plus lentement, et puis cette couche qui fabrique peut-être ces grandes instabilités jaunes qui arrivent jusqu'à la surface et qui assure le couplage, la sortie d'énergie entre la partie profonde de la Terre et la partie superficielle. L'idée, c'est tout simplement que la Terre est un objet qui est en train de se refroidir, que sa façon normale de se refroidir, c'est comme votre casserole qui bout, c'est la grande dérive des continents, la formation de la croûte, le flux de chaleur qui fiche le camp, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques normales de tous les jours que vous voyez, elles sont un peu catastrophiques, mais c'est rien à côté de ce qui se passe de temps en temps. Et apparemment, ce système n'est pas capable de se débarrasser de la chaleur tout le temps suffisamment. Il l'accumule à cause de ces hétérogénéités profondes que nous avons vues tout à l'heure. Et de temps en temps, apparemment, il préfère utiliser un autre mode de convection de la matière, c'est la formation de ces énormes instabilités qui très rapidement vont emmener une part importante de matière et avec cette matière une quantité importante de chaleur jusqu'à la surface. Alors ça, c'est des théories. On n'est pas capable de voir l'intérieur de la Terre, mais on est capable aujourd'hui de le modéliser, soit numériquement sur les ordinateurs, il faut se méfier de la modélisation numérique, mais c'est un outil merveilleux, soit dans des expériences analogiques au laboratoire où on essaie de mélanger des fluides qui ont à peu près les propriétés mathématiques qu'il faut pour reproduire en laboratoire, en modèle réduit, ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. C'est ce qui a été fait dans la diapo de droite, où dans un grand récipient comprenant un liquide plus ou moins dense et visqueux et qui est transparent, on a, au début de l'expérience, laissé se dégager des instabilités d'un liquide teinté en noir, qui est moins visqueux et plus léger, et qui est instable, et qui commence à grimper. Vous voyez trois petites boules qui se forment tout en bas dans la figure de droite, et les deux diapos suivantes vous montrent deux étapes successives de l'expérience où l'une de ces boules a manifestement gagné du volume, elle se fait nourrir par le biais de la queue très fine que vous voyez ici, pour arriver à un moment donné, et très rapidement à l'échelle, quand on met tout ça à l'échelle des temps géologiques, à la surface, c'est en gros l'explosion, le volcanisme, l'arrivée des trappes à la surface. Alors on peut mettre tout ça à l'échelle, et puis vous voyez que ce genre de modèle, ça nous donne des idées, et ça nous permet de faire des prédictions. Et là encore, la science, ça consiste à avoir des idées, à proposer des modèles, mais ensuite à se dire, est-ce que je prédis des choses que je n'avais pas vues avant, et que je vais pouvoir interpréter grâce à ce modèle ou modifier. Eh bien là, par exemple, si vous imaginez qu'une plaque dérivante, l'Inde, vient se promener gentiment au-dessus de cette instabilité, eh bien au moment où la bulle arrive, il va sortir des choses épouvantables, ça va faire des trappes, mais quand ça va continuer et que la bulle se sera vidée, vous serez au-dessus de la tige qui pourra continuer comme un chalumeau à percer la surface, mais avec un volume et une intensité beaucoup plus faibles que ça n'était le cas au moment de la grande éruption. Eh bien, si vous regardez, diapo suivante, le fond de l'océan Indien, vous retrouvez exactement ça. Ce que vous voyez à gauche, c'est vous reconnaissez l'Inde, vous reconnaissez les trappes du Deccan en noir, 65 millions d'années. En gris, vous avez des archipels d'îles qui parfois émergent, parfois sont sous-marines, les îles Chagos, Lacadive, Maldives, des lieux de vacances assez intéressants. On en a ramassé des échantillons qu'on a datés, et ici, elles ont, un peu plus haut que mon doigt, 55 millions d'années à 60, ici 48, ici 35, ici à l'île Maurice, 7, et à l'île de la Réunion, eh bien, il y a 2 millions d'années que ça se fabrique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement la trace de la brûlure datée au cours du temps de la queue du panache qui, en démarrant, a créé les trappes du Deccan. Et on sait faire ça plus ou moins bien pour les autres zones. Donc on arrive à retrouver, à la surface de la Terre peinte, l'histoire d'une ascension qui probablement vient de 3000 km de profondeur à l'intérieur du manteau. Vous voyez que là, on a à peu près bouclé le système observation, construction d'un modèle, prédiction du modèle, retour à l'expérience, observation. À droite, une jolie photo pour vous montrer le dieu Shiva qui a été ici sculpté dans les trappes du Deccan. C'est donc le basalte de 65 millions d'années qui aurait en partie au moins tué les dinosaures. Et si j'ai choisi cette représentation de Shiva, c'est que comme l'a suggéré le célèbre paléontologue américain Stephen Jay Gould, ce n'est pas une mauvaise image de ce qui se passe pendant les extinctions d'espèces. C'est une catastrophe épouvantable, mais c'est en même temps la base de la renaissance des espèces. Et Shiva est, dans la théologie hindouiste, le dieu de la destruction aveugle, mais également le dieu de la recréation et de la renaissance. Diapo suivante. Bon, je voulais terminer en un mot, parce que ça aussi, c'est plutôt un sujet de discussion qu'un sujet d'exposé, surtout à l'heure où j'en suis arrivé. Je vous ai présenté les résultats potentiels de deux grands types de catastrophes climatiques, les astéroïdes, les impacts de météorites et les éruptions volcaniques. Les deux se sont produits dans l'histoire de la Terre. Les impacts étaient certainement extrêmement fréquents dans le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre, tout simplement parce qu'ils ont tous été ramassés par le grand ramasse-miettes qu'est la Terre. Il n'y en a plus beaucoup et donc ces impacts de grande taille sont très peu fréquents aujourd'hui. Le volcanisme, lui aussi, représenté à droite ici sur une éruption volcanique à Hawaï, est un phénomène très important. Et pendant les trappes volcaniques, il faut imaginer que la figure qui est là et qui représente une fissure à Hawaï de quelques centaines de mètres de long avec des fontaines de feu, de lave, de quelques dizaines de mètres de haut, eh bien, quand il y avait les trappes du Deccan, la fissure devait faire 400 km de long et les produits devaient être injectés jusqu'à la hauteur de la stratosphère. Donc vous mettez cet objet à l'image de ce qu'ont dû être ces explosions et ces éruptions extraordinaires et vous avez des phénomènes fantastiques. Ce que je voulais vous transporter comme message final avec ces deux diapositives, c'est vous montrer en quoi la connaissance du passé peut servir au futur. On dit souvent aux géologues, servez-vous du présent pour comprendre le passé. Et c'est un très bon guide directeur, on l'a utilisé depuis 150 ou 200 ans en géologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas, pendant la période de mémoire humaine, échantillonné toutes les possibilités de l'histoire de la Terre sous toutes ses formes et sous toutes ses amplitudes. Notre espèce n'existe pas depuis assez longtemps pour que nous soyons sûrs d'avoir tout vu. Et donc le principe « je dois expliquer tout le passé parce que je vois aujourd'hui » ne s'applique pas si quelque chose s'est produit sans violer la physique et la chimie il y a 30 millions d'années. La dernière grande éruption est d'il y a 30 millions d'années. Il y a 30 millions d'années, nos ancêtres étaient dans un état que nous considérerions comme encore relativement primitif. Ceci dit, autre intérêt, on dit que l'espèce humaine est en train de préparer la prochaine grande catastrophe écologique, que peut-être la sixième grande extinction a commencé, que, et peut-être pas seulement depuis le siècle de l'industrie, mais depuis le dernier cycle glaciaire, les hommes, en chassant les grands mammifères, les ont fait disparaître. Qu'aujourd'hui, ils font disparaître, vous le savez, de nombreuses espèces avant même qu'on ait eu le temps de les identifier, quand ils exploitent un peu trop rapidement, la forêt tropicale. Eh bien, les géologues fournissent des scénarios passés de catastrophes où la nature a fait des choses qui peut-être sont de la même ampleur que ce que l'homme est en train de faire à la planète. Et nous fournissons donc peut-être à une autre catégorie de spécialistes qui sont les climatologues des moyens de tester leurs modèles pleins d'incertitudes en s'appuyant de façon rétro-prédictive sur des choses qui se sont réellement passées à ces quelques moments pendant lesquels l'évolution de la vie sur Terre a été entièrement et définitivement réorienté par les grands soubresauts des rythmes internes de la planète. Merci. Alors, vous voulez voir le dessin animé ?
Oui.
Ils veulent voir le dessin animé. Je vais me débarrasser de ça.
Vous me repassez à la main, je le tiendrai à la main là. Alors. Alors, est-ce que le film...
Il faudra que j'ai le... Merci. Alors, je remets ça. Voilà, ça va ? Voilà, alors ce que vous voyez ici, maintenant vous êtes familier de ce genre de dessin, une reconstitution de la Terre comme elle était il y a 260 millions d'années. Vous allez voir se dérouler, dans le sens où s'est réellement écoulé le temps, la dérive des continents depuis 260 millions d'années, à raison d'une image par million d'années. Je pense que ce petit film qui a été réalisé par mon collègue Jean Besse va durer à la fois assez longtemps, une dizaine de secondes, et en même temps probablement trop vite pour que vous saisissiez tout ce que vous avez envie de regarder, donc on pourra éventuellement le réexplorer une ou deux fois par la suite. Ce que vous allez voir, c'est le balai des continents, bon ben il est comme il est, agrémenté de taches rouges. Et j'attire votre attention sur les moments où apparaît un gros blob rouge, c'est un trap en train de se mettre en place. Regardez l'endroit où il s'est formé, quelques millions d'années après, vous voyez s'ouvrir un bassin océanique à cet endroit-là, et vous pourrez les suivre dans l'ordre, vous verrez apparaître... À 250 millions d'années, les trappes de Sibérie, il se trouve, je pourrais vous expliquer pourquoi, qu'il ne s'est pas passé vraiment d'ouverture océanique à ce moment-là. Puis, il y a 200 millions d'années, vous verrez ce fameux trap de l'Atlantique Nord qui va se mettre en place. Puis, à 180, j'en ai pas parlé du tout, vous allez voir toute cette province-là, c'est tout simplement les diamants en particulier. Parce qu'il y a des diamants associés aux trappes. Hein. Je dis ça aux gens qui ont envie d'investir dans nos travaux. Vous avez ici un grand trap qui s'appelle le Karoo et qui se met en place et qui va donner la désagrégation du Gondwana ouest et du Gondwana est. Puis vous verrez à 170 millions d'années celui-là. Puis vous verrez l'Inde. Vous voyez l'Inde, elle est coincée pour l'instant ici. Vous verrez les trappes du Deccan exploser à 65. Puis il y a une petite erreur, mais très peu de temps après, vous verrez se former celui qui va donner aujourd'hui l'Islande. Et puis, pardon, il y a 30 millions d'années, vous verrez finalement, dans les dernières secondes, se mettre en place le grand plateau d'Éthiopie et s'ouvrir le golfe d'Aden et la mer Rouge, qui sont la plus récente ouverture océanique. Alors, on y va. Go! Taches rouges. 180, le Gondwana, et hop, vous voyez s'ouvrir l'Atlantique central et partir l'Australie. 170 millions, Atlantique sud, et hop, il s'ouvre. Période un peu calme. 60 millions d'années, l'Inde, qui est en train de grimper vers le nord, et en plus, elle écrase l'Asie et elle éjecte toute l'Indochine. C'est un autre passionnant problème qu'on pourrait vous raconter autrement. Alors, est-ce que si je reste là pendant les questions, ça gêne les caméramans ? Oui ? Oui, un peu. Bon, parce que sans ça, j'aurais pu, si vous avez des questions sur le dessin animé, vous le rejouer en arrière, mais on va se passer de ça. Donc, je vais me remettre dans le champ. Voilà. Et si vous avez encore du courage et des questions, essayez d'y répondre.
Il y en a tout de suite une ici. Non, attendez que vous ayez un micro. Passez vite le micro, là. Monsieur.
Oui, il y avait deux choses, dont une que vous avez montré avant que j'en parle, c'était la simulation en laboratoire, modélisation. Et il y a un phénomène que vous n'avez pas parlé, enfin, un météorite qui est tombé en Sibérie au début de 1900.
Oui, et vous voulez qu'on parle les deux. Alors, ce qui est tombé au début du siècle en Sibérie, On ne sait pas très bien ce que c'est. Ça a reçu le nom de la province où c'est tombé, qui s'appelle Tunguska. Et donc, on appelle ça la météorite de Tunguska. Certains ont même suggéré que c'était un petit trou noir. Il est plus probable que c'est en effet un morceau de petite taille de météorite qui n'a même pas atteint le sol et qui, comme c'est le cas la plupart du temps, s'est enflammé, désintégré, vaporisé pendant la traversée de l'atmosphère, mais qui est arrivé suffisamment près de la surface pour que la boule d'énergie liée à la fin de sa vaporisation brûle et couche à la surface une bonne partie de la forêt de cette région de la Tunguska, où on retrouve maintenant à l'intérieur d'une végétation qui a un peu repris les traces de cette catastrophe ancienne. Ce petit machin-là, c'est tout petit, c'est plus petit que ce qui a fabriqué le météore cratère il y a 20 ou 30 000 ans en Amérique du Nord, et c'est minuscule par rapport à ce qui a fabriqué le grand cratère de Chicxulub au Yucatan que je vous ai montré. Il faut voir que l'explosion de la météorite ou l'impact de la météorite du Yucatan, ça correspondrait en termes de tremblement de terre, c'est peut-être un tout petit peu plus familier comme échelle pour certains d'entre vous, à un tremblement de terre de magnitude 12. Et chaque fois qu'on passe un cran en magnitude, on multiplie l'énergie par 100. Donc un 12, c'est 100 fois plus qu'un 11, c'est 10 000 fois plus qu'un 10, c'est 1 million de fois plus qu'un 9, c'est 100 millions de fois plus qu'un 8, c'est donc 100 millions de fois le tremblement de terre de San Francisco. Donc la Tunguska, c'est pas drôle d'être dessous, mais c'est rien.
Oui. S'il y a eu un seul impact à Chicxulub, on devrait trouver, en fonction de la distance, dans les différents affleurements de la crise crétacé-tertiaire, des concentrations en iridium et en quartz choqué décroissantes au fur et à mesure des distances. Est-ce que c'est le cas ?
C'est une excellente remarque. C'est un peu plus compliqué que ce que vous dites, parce que au moment de l'impact, probablement la totalité de la matière de la météorite est volatilisée, vaporisée. Donc la poussière, c'est en fait la cible, la croûte qui a été impactée, un peu loin de l'impact, qui est écrasée et envoyée sur des trajectoires balistiques par l'énergie cinétique de l'impact. Mais la matière même de la météorite, solide, il n'en reste probablement pas. Elle a été vaporisée, elle s'est recondensée sous forme de particules minuscules et elle est montée suffisamment haut dans l'atmosphère pour être distribuée autour du globe entier. Le résultat, c'est que l'iridium, avant de se redéposer par la suite, entraîné par les précipitations dans les mois et les années qui ont suivi, eh bien, la couche d'iridium n'a pas une forte variation de concentration par rapport à la distance. Par contre, les petits grains choqués, qui eux sont probablement non pas du matériau de la météorite, mais des morceaux arrachés de la cible d'impact, eh bien, on a retrouvé en effet une distribution de la quantité de ces matériaux qui est très compliquée et qui est compatible avec un modèle qui tient compte de la direction, de l'angle d'attaque et de la rotation de la Terre et qui fait que la redistribution de ces morceaux est loin d'être évidente, mais en gros, il y en a plus près que plus loin. Donc la réponse, c'est qu'il semble qu'on a à peu près retrouvé ça dans les grains de quartz à la surface du globe.
Monsieur.
De la dynamique du globe actuellement, sur la disparition actuelle des espèces par milliers en Amérique du Sud, en Amazonie ou bien en Indonésie.
Alors, j'ai pas entendu le début de la question.
Peut-on évaluer réellement l'impact de la dynamique du globe avec les machines que nous avons actuellement sur la disparition des espèces par milliers en Amérique du Sud ou bien en Indonésie?
Alors, la réponse
est due uniquement par la main de l'homme.
Oui, merci. Alors, la réponse, elle est double. D'abord, tout le monde n'est pas d'accord sur le chiffrage de la disparition d'espèces actuelles, sur le fait de savoir combien il en disparaît aujourd'hui, depuis l'ère industrielle, depuis la dernière ère glaciaire et le développement principal de l'homme. Et tout le monde n'est pas d'accord pour dire que nous sommes en ce moment dans une extinction en masse. Donc les extinctions qu'on observe ne sont pas démontrablement des extinctions en masse. Quelle est leur cause ? Une partie sans doute est liée à l'activité de l'homme, y compris avant la période industrielle, mais on n'est pas encore capable de faire la différence entre ce qui est dû à l'homme et ce qui est dû au climat, parce que ça correspond aussi à la dernière déglaciation et à un changement climatique majeur. Lesquels climats sont modulés, j'en ai pas parlé, non pas par l'intérieur de la Terre, mais par le Soleil. Et donc il y a des cycles solaires de 100 000 ans, 200 000 ans, 400 000 ans, 10 cycles de Milankovitch, qui change la quantité de lumière solaire qu'on reçoit, qui change le climat et qui pilote en partie les glaciations. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une extinction en masse, il y a des extinctions, elles sont en partie dues au climat, en partie à l'homme, mais on est très loin d'en avoir une compréhension quantitative suffisante, et en tout cas, on n'est certainement pas dans une de ces périodes que je vous ai décrites. Il n'y a pas de grosses bulles en train de crever à la surface, sinon on le saurait. La prochaine qui viendra, viendra sans doute à une vitesse telle et dans un monde où on aura des instruments tels qu'on aura probablement un bon million d'années d'annonce avant qu'elle arrive à la surface.
Monsieur.
Oui, bonsoir. Merci de votre exposé. Je voudrais seulement savoir, quand passent les comètes à l'approche du Soleil, qu'elles nous lâchent beaucoup de vapeur d'eau, et je voudrais savoir où elles prennent toute cette énergie, où elles vont chercher l'eau.
Alors d'abord, je suis déjà allé très loin de mes bases, et donc vous allez me fournir la réponse à la question qui me permet de donner une de mes réponses favorites. Je suis géophysicien spécialiste du champ magnétique terrestre. J'ai déjà dû regarder le reste de la géophysique, puis parler avec les géochimistes, mes collègues géologues, les paléontologues, les biologistes, etc. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on est obligé d'apprendre à travailler, à discuter avec des collègues qui ont des compétences extrêmement vastes. C'est un travail, comme vous l'aurez vu, qui est fondamentalement pluridisciplinaire, avec les dangers, mais aussi avec la passion que ça déclenche. Là, vous m'emmenez encore plus loin, vous m'emmenez en astrophysique sur les comètes. Mon copain André Braïc, je ne sais pas s'il passe ici ni quand, mais il vous répondrait à ça très rapidement. Les comètes, pour un bon nombre d'entre elles, semblent être des noyaux de glace sale, peut-être avec des petits noyaux rocheux à l'intérieur, qui sont installés très au-delà de l'orbite de la dernière planète, dans un réservoir qu'on appelle le nuage d'Oort. C'est une hypothèse faite par un astrophysicien, M. Oort, et qui, de temps en temps, perturbé par les planètes géantes, et en particulier perturbé par Jupiter, quitte ce tranquille chemin à longue distance autour du Soleil où elles sont si loin et qu'il fait si froid qu'elles ne s'évaporent pas, pour être sans doute pour certaines d'entre elles virées en dehors du système solaire et pour une petite partie d'entre elles redirigées et injectées dans des orbites qui vont à ce moment-là prendre le Soleil comme foyer, qui en s'approchant du Soleil, sous le simple fait de l'illumination par les photons et l'énergie solaire, vont commencer à se sublimer, perdre de la matière, quelle qu'elle soit, cette matière, on essaye de comprendre ce qu'elle est, vapeur d'eau, vapeur d'ammoniac, vapeur de méthane, et c'est en utilisant la lumière émise par ces évaporations, soit à partir de télescopes sur Terre ou en orbite, soit à partir de satellites qu'on est en train d'envoyer pour passer juste à côté, qu'on arrivera à comprendre mieux la composition des comètes et leur origine. Ce sont probablement des morceaux de matière agglomérés dans les toutes premières phases du système solaire, il y a 4 milliards 500 millions d'années. Ce sont donc parmi les vestiges les plus anciens de la formation du système solaire.
Je vous invite à venir les 7, 8 et 9 juillet là-dessus. Question.
Vous nous avez dit qu'éventuellement vous nous expliqueriez pourquoi les premières trappes Sibérie n'ont pas, etc.
Ah, alors je ne sais pas très bien. Et ensuite, je ne suis pas sûr que les trappes de Sibérie n'aient pas ouvert quelque chose. En plus, j'ai remarqué dans l'assistance quelques visages familiers d'amis géologues en particulier qui sauraient peut-être mieux que moi répondre. Si vous regardez la géologie de la Sibérie, vous vous apercevez qu'à côté du gros pavé de lave, ou du moins de ce qu'il en reste, ces fameux trappes de Sibérie, vous avez à gauche, à l'ouest, un immense bassin qui est essentiellement le long de la province du Kazakhstan et où 10 km de sédiments se sont installés dans une dépression, dans une déchirure dont on connaît encore mal le fond parce qu'on n'a pas foré jusque-là et qu'on n'en a pas encore des cartes géophysiques suffisamment précises. Il est possible que cet énorme bassin sédimentaire se soit déposé dans un rift, une zone qui s'est déchirée et qu'il y ait donc bien eu un démarrage de déchirure, mais que ce démarrage de déchirure n'ait pas eu assez d'énergie pour aller jusqu'au bout, qu'il ait avorté et qu'il ne se soit pas formé de bassin océanique. Donc il y a peut-être aussi une trace de déchirure à côté des trappes de Sibérie. Et puis comme ces phénomènes, c'est des phénomènes qui ne sont pas tous pareils, il y a des gros trappes, des moyens trappes, il y a des forces, des plaques plus ou moins bien orientées, il n'est pas du tout obligatoire que ça donne exactement la même chose chaque fois, ni que ça marche jusqu'au bout chaque fois. Je pense qu'un trappe aide à la déchirure océanique, il n'y conduit pas forcément à tous les coups.
Mademoiselle.
Il marche ? Oui. Si on a des images de tomographie jusqu'à la limite manteau-noyau, on n'arrive pas à déterminer si on a une ou deux couches de convection dans le manteau.
Oh oh. Oh oh oh. Ça, c'est un cours entier. Vous venez faire le DEA chez nous si vous n'y êtes pas déjà, parce que ça ressemble à une question d'étudiante du DEA. Non ? Bon, pas encore. Eh bien, ça viendra. Venez chez nous. Vous aurez des cours super pour vous expliquer ça. Les sismologues se battent en ce moment pour savoir si la convection se fait en une ou deux couches. Alors, cette dame ayant dit des choses rapides, il faut quand même que je résume pour les autres. On se demande, et vous avez pu le deviner sur certaines de mes figures, si la convection à l'intérieur du manteau, c'est un grand cycle ou bien un cycle qui irait jusqu'à 700 km de profondeur et une deuxième couche au-dessus. Il semble qu'il y ait les deux et il semble que, en fait, la convection à deux couches et à une couche représente des moments différents de l'histoire du globe. Les sismologues n'ont pas encore une tomographie assez précise et si vous prenez les images que vous fournissent plusieurs laboratoires, ils ne sont pas encore tous d'accord entre eux. Je vous ai montré une hypothèse. Dans les cas où on voit le mieux cette grosse langue froide, parce qu'elle est très claire en dessous de l'Amérique du Nord, il y a des endroits où on voit d'autres anomalies un peu plus subtiles et qui ne sont pas les mêmes d'une carte à l'autre. Et on n'a pas encore vu les anomalies chaudes et toutes petites qui devraient correspondre à des points chauds s'il y en a à l'intérieur du globe. Et puis on a découvert qu'il y avait un changement vers 1700 km de profondeur qui a l'air d'onduler. Et donc en ce moment, ce sujet dont vous me parlez est en pleine réflexion. On a des modèles différents, on n'est pas sûr de nos données. Et l'amélioration de la sismologie et de la tomographie me fait penser que c'est un des problèmes sur lesquels on va avoir la réponse dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc c'est les prochains sujets de thèse, la vôtre peut-être.
Il y a une question ici, puis ensuite madame.
Dans votre conférence, vous nous avez expliqué deux théories de disparition des dinosaures. Est-ce qu'on peut considérer que les deux peuvent être valables et que c'est une conjonction des deux qui pourrait expliquer finalement cette disparition ?
Tout à fait. Je ne l'ai pas dit aussi bien et je n'en ai pas trouvé le temps, mais c'est exactement ça qui était mon message. Mon message numéro un, c'était on a un certain temps opposé la théorie du volcanisme et la théorie de la météorite. Mais comme on a trouvé le volcan et comme on a trouvé la météorite, on est esclave des observations et des faits. Il y a eu les deux. Deuxième question, est-ce qu'ils sont reliés entre eux ? Parce qu'on me pose en général la question, est-ce que ce n'est pas la météorite qui a tapé dans la croûte et qui a fabriqué le volcanisme ? Réponse, non. On a trouvé des sédiments entre les couches de lave du décan avec la trace de l'iridium de la météorite. Donc le volcanisme avait commencé avant. Le terrain en géologie, de temps en temps, ça donne des réponses oui ou non simples. Pas tout le temps, mais parfois. Donc, l'un n'est pas la cause de l'autre, c'est un hasard, et même si ça vous déplaît, c'est comme ça, les deux se sont produits, et les deux se sont produits dans la même fenêtre de temps, donc très probablement, une partie des extinctions d'espèces, c'est les phases volcaniques, et la météorite, ça n'a pas dû arranger les choses. Ce qui est important, c'est que quand ensuite vous allez regarder les autres extinctions, il n'y a de traces de météorite nulle part. Il y a un volcan pratiquement partout, donc la règle générale, c'est le volcanisme qui fait ces phénomènes-là. Les météorites, on a d'autres météorites qui sont tombées à d'autres moments où il n'y a pas de trappe. Elles ont dû faire du mal localement, mais il n'y a pas d'extinction d'espèces. Donc il semble que des vraies grosses météorites qui seraient capables de faire un désastre absolu, il y a probablement 1 milliard d'années qu'il n'y en a plus eu sur Terre. Il y en a eu, mais il y a beaucoup plus longtemps que l'histoire que je vous raconte, à un moment où la vie avait commencé, sans doute, mais nous a laissé des traces si faibles qu'on n'est pas capable de reconstituer l'histoire que je vous raconte ici.
Madame. Monsieur, vous venez de nous dire que vous êtes spécialiste du champ magnétique terrestre.
Enfin, j'essaye.
Alors, moi, je n'ai jamais vraiment très bien compris. Est-ce que vous savez donc qu'est-ce qui se passe au niveau du noyau ?
Non.
Rien du tout ?
Non, pas rien du tout, je ne sais pas.
Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer très, très vite ?
Oui. Einstein disait au début du siècle qu'il y avait 4 grands problèmes qui étaient le défi de la physique du XXe siècle qui vient de s'achever. Et que, en particulier, l'un de ces 4 problèmes, c'était l'origine du champ magnétique terrestre. Donc, il considérait que c'était un des grands problèmes. On ne l'a pas totalement résolu. On a fait au cours des 10 dernières années des progrès tellement importants que je pense que dans les 10 années qui viennent, c'est un des problèmes, avec la tomographie dont on parlait il y a un instant, où on n'a jamais tout résolu et on pose toujours de nouvelles questions. Mais je pense que c'est un des problèmes où on aura vraiment bien avancé. Aujourd'hui, on est à peu près sûr que le champ magnétique terrestre se fabrique dans le noyau, et pas ailleurs, que s'il se fabrique dans le noyau, c'est parce que ce noyau est fait avec du fer liquide, que ce fer conduit l'électricité et qu'il bouillonne sans arrêt, et qu'il s'y produit un phénomène tout simplement de dynamo, mais dans une dynamo un peu plus compliquée que la dynamo de votre arrière-roue de bicyclette ou de votre petit moteur, mais enfin, en gros, c'est des grands filets de métal conducteurs de l'électricité qui bouclent, qui créent des champs magnétiques, qui, à leur tour, en variant, créent des champs électriques induits, qui ensuite se couplent ensemble et donnent cette évolution instable et qui parfois se renverse, qui est le champ magnétique terrestre. On a même commencé, grâce aux plus puissants ordinateurs, à faire des modèles numériques de quelque chose qui commence à ressembler à la dynamo terrestre. Ceci dit, pour ceux d'entre vous qui êtes plus techniciens, quand on fait des modèles réduits comme ceux que je vous ai montrés, et en particulier quand on travaille dans l'ordinateur, on fait un modèle réduit numérique. Il y a des nombres sans dimension qu'il faut respecter pour être dans des conditions où ce modèle représente vraiment la Terre. Et pour deux des principaux nombres qui gouvernent le fonctionnement de la dynamo, dont on a toutes les équations théoriques, eh bien numériquement, nous sommes encore à un facteur 1 million de ce qu'il nous faudrait pour dire c'est à peu près la Terre. Je pense qu'avec l'avancée de la puissance et de la taille des calculateurs, ces facteurs 1 million vont être franchis dans les années qui viennent et qu'on saura faire une dynamo numérique ressemblant à peu près à la dynamo terrestre dans la décennie qui vient.
Monsieur, s'il on va plaît, prendre les dernières questions.
Que se passera-t-il quand le noyau de la Terre sera complètement refroidi ?
Non, c'est pas drôle du tout. Le noyau de la Terre, il y a un collègue, un jeune collègue de notre laboratoire, Stéphane Labrosse, qui travaille là-dessus avec mes collègues Jean-Paul Poirier et Jean-Louis Lemoël. Ils font des travaux assez intéressants. Le noyau, pour ceux d'entre vous qui avaient également regardé avec attention les figures, il est fait de deux parties. Une partie dite externe qui est liquide et une partie interne qui était sous une autre couleur, qui est du fer métallique solide. Ce noyau, cette graine, elle a été découverte par la sismologie, par Madame Lehmann en 1927, et cette graine, elle est en train de croître puisque le noyau refroidit et donc le fer cristallise et la graine est en train de croître. Et comme monsieur vient de le dire, un jour va venir où le fer solide, cristallin, remplira la totalité du noyau. À ce moment-là, il n'y aura plus de dynamo, il n'y aura plus de champ magnétique terrestre, comme sur la Lune qui a sans doute un tout petit noyau mais qui refroidit depuis suffisamment longtemps pour qu'elle n'ait plus ce champ. Donc, il n'y aura plus de protection des rayons cosmiques et nous serons en permanence bombardés par ces rayons cosmiques. Ceci dit, l'échelle de temps, je n'ai pas vu les derniers calculs de mon ami Labrosse, mais l'échelle de temps pour ce refroidissement, elle est au moins de l'ordre de 2 à 4 milliards d'années. Et dans cette échelle de temps, il a le temps de se passer pas mal de choses. D'abord, l'humanité peut se faire un certain nombre de trucs. Et puis, le Soleil doit aussi devenir un jour une géante rouge. Et ce jour-là, son diamètre sera plus grand que l'orbite de la Terre. Donc, on sera volatilisé. Donc, on a pas mal de petits trucs sympas qui se passeront à cette échelle de temps. Vous pouvez attendre pour l'instant de façon relativement calme.
Alors, une avant-dernière question et puis une dernière.
Nous savons qu'il y a 65 millions d'années, dans les strates, on a retrouvé de l'iridium. A-t-on retrouvé des strates datant de 260 millions d'années et y a-t-on retrouvé de l'iridium ?
Merci, belle question. Non, c'est moi qui vous remercie, j'aime bien les trucs qui me permettent d'en rajouter un peu que je n'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure. On a trouvé de superbes coupes de la limite Permo-Trias, en particulier en Chine. On y a trouvé des couches volcaniques qu'on a réussi à dater très bien. On y a retrouvé la succession des fossiles de façon extrêmement fine. On a cru un moment, effet de mode, y trouver de l'iridium. Ça a été publié dans l'une des plus prestigieuses revues Nature, un peu rapidement par des collègues chinois et canadiens. Évidemment, quand on trouve ça, on se précipite pour refaire. Et tous ceux qui ont essayé de refaire, dont mon collègue Robert Roquia en particulier, n'ont rien retrouvé du tout. On est presque certain que c'est une contamination par le noyau, par l'anneau de platine que devait porter l'un des chercheurs qui a échantillonné l'échantillon, parce que les concentrations sont si faibles que ce genre de pollution est tout à fait possible. Il n'y a désormais, on en est sûr, pas la moindre trace d'iridium, de quartz choqué ou de n'importe quoi correspondant à un impact à la limite Permo-Trias. Il n'y a pas d'impact à la limite Permo-Trias. On a par contre retrouvé des pics d'iridium à d'autres moments de l'histoire géologique, en particulier dans les roches italiennes, dans le Jurassique. Donc il y a des traces d'autres impacts à des moments qui correspondent à zéro extinction.
Monsieur,
quelle influence sur le relief du centre de la France a eu l'impact météoritique de la Haute-Vienne ?
Rochechouart.
Oui.
La météorite de Rochechouart. J'ai aussi un collègue expert de ça, et puis j'avais un professeur à l'École des Mines qui était un grand expert, n'est-ce pas, M. Kraut. Je ne sais plus très bien, Daniel, quel est l'âge de la météorite de Rochechouart. C'est du Trias, je crois, hein. C'est du 200 millions d'années. Allez, il a fait bof parce qu'il est sympa. Bon, 200 millions d'années, au Trias, où était la France ? Pour vous répondre, je ne les connais pas toutes par cœur, mes cartes. Il faudrait que je rallume mon dessin animé, que je vous le mette à 200 millions d'années, qu'on regarde où était la France, qui n'était pas du tout comme ça. Les Alpes ne s'étaient pas formées. À la suite des grandes collisions d'il y a 300 millions d'années, il s'était formé tout ce qu'on appelle le massif armoricain, mais à cette époque-là, ça avait la hauteur du Tibet. Il y avait des trucs style Tibet. Et sur quel type de roche, à quel endroit, à quel moment est tombée la météorite de Rochechouart, j'en sais rien du tout. Quelle taille elle a ? pas monstrueux, hein, c'est un diamètre de... Le cratère même, c'est kilométrique. C'est kilométrique, donc c'est un petit objet. Hein. Donc c'est le seul qu'on ait en France, mais c'est un petit objet, il n'a pas dû faire grand-chose.
Ce que je puisse en dire, c'est qu'il existe sur cet impact des quartz, non pas des quartz choqués, mais des quartz clivés.
Donc il existe, pour ceux qui voient ça de façon remote et qui n'ont pas entendu la question, des quartz non pas choqués mais clivés, c'est-à-dire qu'on a une trace de déformation due à une onde de choc un peu moins violente à l'intérieur de ces quartz. Il n'y a pas doute, il y a eu un impact. Il n'était pas très gros, il n'a rien fait du tout aux espèces, si ce n'est localement. Il n'a pas dû arranger les bestioles qui vivaient dans l'environnement immédiat, mais il n'y a pas d'effet global. Il faut que vous compreniez, dans toutes ces catastrophes dont je vous parle, nous ne décelons là que des catastrophes globales. S'il tombait une météorite de 1 km de diamètre aujourd'hui sur Manhattan, elle formerait un cratère de 30 ou 40 km de diamètre, détruirait absolument tout dans un rayon de 400 ou 500 km, toute forme de vie, créerait sur la planète un certain nombre de désagréments, mais il y a fort à parier que l'espèce humaine survivrait et que d'autres espèces nombreuses survivraient et que, vu par des géologues dans 20 millions d'années, cet événement qui ferait quand même la une des journaux ne serait pas une catastrophe globale, même pas visible par les géologues. Donc vous voyez, ce que je viens de vous raconter, c'est une non-catastrophe pour un géologue. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on voit, ça a dû vraiment être des machins épouvantables. Allez.
Bon.